Vous écoutez RTL.
Votre invité ce matin, Jean-Michel Apathy, c'est un député Les Républicains de l'Oise.
Bonjour Éric Woerth.
Bonjour.
Le gouvernement a décidé d'utiliser cet après-midi pour contraindre sa majorité l'article 49.3 afin de faire adapter à l'Assemblée nationale la loi Macron. Vous êtes dans l'opposition. Alors ça vous déplaît ou ça vous amuse ?
Non, ça nous déplaît. Parce que ça nous déplaît. Non, pas vraiment. Enfin, d'un autre côté, moi je croyais que le Premier ministre avait une majorité, puisque c'est ce qu'on a cru comprendre lors du Congrès socialiste. C'est visiblement pas le cas. Il a à la fois peur de sa majorité et probablement n'est pas très à l'aise avec son texte.
C'est un héritage gaulliste, le 49.3.
C'est la Constitution, donc j'ai pas de difficulté particulière. Sauf qu'il y a une petite différence.
Pour ceux qui nous écoutent, il faut le lire.
Il y a une toute petite différence, ouais. Jean-Michel Apathy, c'est que lorsque on a voté la Constitution de 1958, il n'y avait pas le temps programmé. Il y a aujourd'hui. Non, mais les auditeurs doivent le savoir. C'est que ce texte, il n'était pas voué à durer 5 semaines. Il y avait un temps 25 heures de débat. Donc 25 heures de débat pour une deuxième lecture, c'est 2 fois moins qu'en première lecture. Donc
c'est très difficile. On peut le dire, la loi Macron.
C'est très difficile de cumuler. De cumuler à la fois temps programmé et 49.3. Empêcher le débat et en même temps borner dans le temps le débat. C'est donc une première.
Vous êtes un peu dans la technique parlementaire.
Ah oui, mais c'est important. Non, mais si on fait des généralités.
La loi Macron. Pensez que ça va apporter quelque chose à l'économie française ou pas ?
Vous savez, c'est toujours la même idée, c'est est-ce que ça va dans le bon sens ou pas dans le bon sens ? Moi, je note que c'est quand même une drôle d'idée. La France, elle est devant des grands problèmes, d'énormes problèmes, et on fait des petites réformes. Donc, il y a vraiment un décalage tout à fait considérable entre ces grands problèmes et les petites réformes qui sont proposées. C'est vrai pour la loi Rebsamen, et c'est vrai aussi pour la loi Macron. Il y a un certain nombre de choses, on l'a dit d'ailleurs nous-mêmes, qui nous conviennent, et puis il y a globalement l'énergie du pays qui est consacrée à une petite loi qui ne changera pas grand-chose à la croissance.
L'opposition saisira le Conseil constitutionnel de
Macron ? Oui, bien sûr, on saisira le Conseil constitutionnel.
Ça mettra encore un peu plus de temps à entrer en vigueur.
Je ne suis pas responsable de la programmation au gouvernement, je ne suis pas responsable du fait que le gouvernement ne propose aucune des réformes nécessaires à notre pays. Quand vous avez presque 6 millions de chômeurs, 5,6 millions, toutes catégories confondues, il faut peut-être quand même un tout petit peu prendre le taureau par les cornes et faire des réformes nécessaires. Les réformes nécessaires, on les connaît. La réforme du marché du travail, l'opposition le dit maintenant, de façon assez précise et assez nette, que ce soit le temps de travail ou l'organisation du travail lui-même. Aujourd'hui, je vois que M. Badinter sort un livre avec M. Lyon-Gant pour le dire aussi. Et nous allons dans le même sens, il faut alléger le code du travail. Et c'est pas la loi Macron ou la loi Rebsamen qui change quoi que ce soit. Ce sont des piqûres d'épingle quand il faudrait au contraire réformer en profondeur notre pays.
Il faut faire ce qui n'a pas été fait depuis longtemps, y compris quand vous étiez vous-même.
L'émission que vous ferez demain. L'émission que vous ferez demain, vous ne l'avez pas faite aujourd'hui. Donc il y a toujours.
Ça
a un rapport. C'est que le temps qui passe fait que vous faites toujours le lendemain ce que vous n'avez pas nécessairement fait aujourd'hui. Ça, c'est même le propre de la vie. Nous avons beaucoup fait dans ce domaine-là. Les accords, l'ANI, les accords interprofessionnels qui ont été votés en 2013 ont été négociés à l'époque. La rupture conventionnelle, etc., etc. Beaucoup de choses ont évidemment été faites. Mais aujourd'hui, la crise est telle. Et elle est tellement ancrée dans notre propre pays, elle est devenue française d'une certaine façon, qu'il faut y réagir très très puissamment. Et le gouvernement est à côté de la plaque, on le voit bien, il recherche sa majorité.
Alors
c'est quand même un coup de menton juridique. C'est un coup de menton juridique de M. Valls. C'est un aveu de faiblesse, le 49.3. Au fond, c'est rien d'autre. C'est un aveu de faiblesse. Visiblement, il est plus à l'aise aujourd'hui.
D'accord. Que ferez-vous demain, Éric Woerth ? Vous êtes délégué général du projet, c'est comme ça la formulation pour les Républicains, donc votre formation politique, et vous vous lancez dans un nouveau débat, celui des moyens d'obtention de la nationalité. Aujourd'hui, majoritairement, c'est le droit du sol qui prévaut, en tout cas pour des étrangers qui sont en situation régulière. Leurs enfants peuvent avoir par le sol le fait qu'ils sont nés en France et la nationalité française, et vous voulez remettre cela en cause, c'est-à-dire privilégier d'une certaine manière le droit du sang. Pourquoi vous lancez dans ce débat ?
Je pense qu'aucun débat n'est tabou. Vous êtes dans l'opposition, quand vous êtes dans la majorité, c'est le temps de la décision, encore qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de décisions, mais dans l'opposition, aucun débat n'est tabou. Et celui-là n'est pas plus tabou qu'un autre.
Vous n'étiez pas chaud il y a 10 jours pour ce débat Là maintenant, vous êtes en train de changer d'avis, mais bon.
On va organiser une convention sur l'immigration.
Vous avez dit il y a 8 jours.
Probablement aussi sur l'intégration et donc sur le droit du sol et le droit du sang. C'est d'ailleurs la manière qu'on a d'acquérir la nationalité française. les temps ont changé. Je vous ferai remarquer que Charles Pasqua, dans les années 90, comme Valéry Giscard d'Estaing, se posait beaucoup de questions, et nous l'avions fait. Enfin, Charles Pasqua avait fait voter une loi, et Jospin l'avait détruite. Donc c'est un débat qui est ancien en France. En réalité, aujourd'hui, on est entre les deux. On a à la fois le droit du sol, et à la fois le droit du sang. On a les deux. Et je comprends que ça puisse tout à fait choquer.
C'est un des problèmes urgents de la société française.
Je termine, parce que c'est des sujets importants. Ouais. Je comprends que ça puisse choquer, qu'à un moment donné, on puisse devenir quasiment automatiquement français, même lorsqu'on naît de parents qui sont en France de façon irrégulière. C'est des questions qu'ont résolues d'autres pays. Il faut se poser ce type de questions. Et on a le droit de changer aussi. On peut pas dire sans arrêt, vous ressortez les vieilles recettes, et puis en même temps nous dire, oh, ben c'est un nouveau débat que vous créez, vous avez changé la vie. Il faut choisir entre les deux.
On a le droit de changer. Donc on va noter que Nicolas Sarkozy a changé. En 2012, il disait, le droit du sol, c'est la France. Avec le droit du sang, on a toujours un sang qui n'est pas suffisamment pur. Donc on a le droit de changer.
Bien sûr qu'on a le droit. Bien sûr qu'on a le droit de changer.
Qui dit ça depuis 30 ans, le Front National.
Je vous fais remarquer que Pasqua l'a fait en 93.
Je vous parle du Front National.
Oui, mais moi je vous parle de l'histoire. Vous me parlez de 30 ans. Moi je vous parle de 93. Donc on a le droit évidemment de changer. Non, ce n'est pas une affaire de Front National. Rien dans ce que nous disons n'est orienté en fonction de ce que fait le Front National. Ça n'a aucune importance, le Front National.
Est-ce que vous conviendriez ce matin, Éric Woerth, que le Front National qui dit ça depuis 30 ans avait plutôt raison et vous plutôt tort?
Non, la situation a changé. Aujourd'hui, quand vous êtes à Mayotte, vous recevez à Mamoudzou, vous recevez des milliers de gens des Comores tout le temps, et vous ne pouvez pas appliquer le droit du sang. On a une immigration qui est de plus en plus prégnante. On voit bien que l'Afrique aujourd'hui, elle est soumise à de telles tensions qu'évidemment, et on peut le comprendre, regardez ce qui se passe en Méditerranée. Donc on est dans une pression qui est tout à fait extraordinaire. Il faut bien que notre législation, elle évolue aussi. Il faut entre nous d'ailleurs aussi qu'il y ait une législation européenne sur l'immigration et sur le droit d'asile, ce qui n'est pas le cas, ce qui éviterait des drames comme à Vintimille ou comme à Paris.
Donc droit du sol, droit du sang, vous vous lancez dans
ce débat.
C'est
un sujet, c'est un débat qu'on lance.
Nous l'observerons attentivement. Très bien.
C'est important le débat.
Nathalie Kosciusko-Morizet, puisque vous êtes chargée du projet, a lancé un autre débat. Il faudra baisser de 100 milliards les impôts en 2017.
C'est beaucoup. C'est beaucoup.
C'est trop ?
C'est beaucoup. Ah, c'est probablement trop. C'est même quasiment impossible.
Elle a dit le chiffre un peu vite. Il ne vous engage pas.
Non, mais heureusement que
chacun.
Non, il ne nous engage pas. Mais chacun peut s'exprimer, évidemment, à titre personnel. Heureusement. Mais il faut baisser les impôts. Il faut baisser les charges. Et la différence est très, très importante avec d'autres pays. Aujourd'hui, il faut baisser, notamment, M. Apathy, les charges des entreprises. Si vous ne baissez pas les charges des entreprises, il n'y aura pas d'emploi et pas d'investissement en France.
Ce que vous dites, c'est qu'il faut supprimer l'impôt sur la fortune, c'est-à-dire vous amputer de 5 milliards de recettes dans les prochains budgets.
Non, je suis
c'est
pas sûr, parce
que
l'impôt, je sais pas, dans d'autres pays, il n'y a pas d'impôt sur la fortune.
Non, mais nous, ça fait 5 milliards de recettes.
Tout va plutôt bien. Il faut économiser au-delà. Vous savez quelle est la différence avec l'Allemagne en termes de dépenses? 150 milliards d'euros de d'écart entre l'Allemagne et la France. Je suis pas sûr que les services publics en Allemagne soient en si mauvais état que cela. Donc, on voit bien que la clé, c'est la dépense publique. Et en même temps, il faut baisser les prélèvements parce que sinon, il n'y aura pas d'emploi dans ce pays. Si vous ne faites pas les choses en masse, moi, je veux bien que vous me disiez sans arrêt qu'il faut rien changer. Moi, je pense qu'il faut beaucoup changer pour conserver un modèle social qui est notre fierté.
Vous avez beaucoup cité Charles Pasqua, Éric Woerth, qui disait « Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent ».
Oui, mais alors on fait plus de projets, Monsieur Apathy. Moi, je crois plus à ça.
C'est juste une citation historique.
Oui, mais on peut considérer que la politique, c'est plus rien, ça vaut plus rien. Moi, j'ai pas cet avis-là. Je pense qu'on peut changer les choses. Je pense simplement qu'il faut le dire avant. Et je pense qu'il faut, aujourd'hui, c'est un exercice de vérité, la politique.
Ce sera le mot de la fin. Éric Woerth était l'invité d'RTL.